Le journal Lydiane Guenin.
Bonjour. Un troisième Médicentre voit le jour dans la région. Après ceux de Tavannes et Moutier, une nouvelle structure médicale a été inaugurée ce matin à Corgémont. L'objectif est le même, lutter contre la pénurie de médecins généralistes. Des perspectives réjouissantes pour le secteur secondaire. La Chambre d'économie publique du Jura bernois a présenté son barème industriel ce matin, optimiste mais prudent en raison de l'évolution de la pandémie. Le HC Bienne veut continuer sur sa lancée. Les hockeyeurs zélandais réalisent un très bon début d'année en National League et ils veulent le confirmer ce soir avec la venue de Zurich à 19h45. L'ambiance est fraîche, voire même très froide aujourd'hui. Des nuages, des températures autour de 0 degré et de la bise. C'est ce qui nous attend dans le ciel, mais il va quand même y avoir quelques éclaircies, surtout sur le Seeland. Après Moutier et Tavannes, la région se dote d'un troisième Médicentre. C'est à Corgémont que la nouvelle structure médicale a été inaugurée ce matin, au cœur du home Les Bouleaux. L'hôpital du Jura bernois loue des locaux. Il a investi plusieurs centaines de milliers de francs dans les équipements. Le but est clair, lutter contre la pénurie de médecins généralistes, un phénomène désormais bien connu. Alors comment s'y prendre? La réponse du président du conseil d'administration de l'HJB, Anthony Picard.
Alors on est créatif dans l'emploi, c'est-à-dire qu'on approche des médecins assistants et puis on leur dit qu'on va mettre une structure à disposition, ça c'est une chose, qu'on va aussi participer au niveau du risque, donc les actionnaires sont derrière pour couvrir le risque entrepreneurial, mais également, et je le relèverai, c'est ce qui est hyper important, c'est que pour les jeunes médecins, on oublie une carrière à 100 ou 150% d'occupation et on peut aller vers des médecins qui travaillent pour certains à 40%, d'autres à 100% effectivement, et d'autres à 80%, ce qui correspond un petit peu à leur rythme de vie. Pour les médecins femmes, donc les doctoresses, c'est très intéressant, puisque lors de congés maternité ou d'obligations familiales, elles peuvent diminuer leur temps de travail avant de retrouver un emploi plus conséquent.
Et puis l'un des changements principaux, vous en avez parlé aussi, c'est la diminution de la charge administrative pour ces médecins.
C'est fondamental. Quand vous travaillez en groupe, vous bénéficiez. Lorsque vous êtes quatre médecins, vous pouvez avoir des assistantes médicales qui vont non seulement gérer votre carnet de rendez-vous, mais qui vont aussi faire tout ce qui est travaux qui prennent jusqu'à 30 ou 40% du temps d'un médecin généraliste, c'est-à-dire toute la paperasse.
La JB ne compte pas s'arrêter là. D'autres médicentres sont prévus dans la région. Dans les anciens abattoirs de Saint-Imier, cela avait déjà été évoqué. À Péry-la-Hutte également, et pourquoi pas à Valbirse ensuite. Ces projets permettront-ils de couvrir les besoins de la population en soins de premier recours? On retrouve Anthony Picard.
Alors pour partie, parce qu'on n'a pas, nous, l'hôpital, le but ou l'objectif de remplacer les médecins généralistes. Donc c'est vrai qu'une partie sera couverte par les médecins actuels qui viennent de commencer ou qui sont âgés de 40-50 ans. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre la relève là où le médecin qui s'en va ne trouve pas de solution.
Un sujet réalisé par Olivier Zano. S'agissant du nouveau Médicentre de Corgémont, deux doctoresses sont actuellement en fonction sur le site. Des consultations spécialisées sont aussi prévues à l'avenir en orthopédie, chirurgie générale et pédiatrie. La rénovation de la piscine en plein air de Saint-Imier va bientôt être soumise au vote populaire. Les citoyens sont appelés à se prononcer le 13 février sur un crédit de 3,9 millions de francs pour assainir et améliorer l'infrastructure. En cas de oui, le chantier se déroulera en deux phases. La première comprendra le changement du système de chloration qui avait provoqué la fermeture de la piscine l'an dernier en pleine saison. Les autorités comptent tout mettre en œuvre pour ouvrir l'infrastructure cet été, en juillet et en août, comme l'explique la chef du service des bâtiments et des infrastructures sportives, Jessica Renfer.
On a vraiment cet objectif-là. Alors certes, ce sera une saison très raccourcie, mais l'idée, c'est vraiment que pendant la période des vacances scolaires, juillet-août, cette piscine soit accessible. Alors certes, le projet ne sera pas réalisé. On va vraiment faire le minimum de ce qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on puisse garantir une qualité d'eau de baignade impeccable, la sécurité de tout le monde, tant de nos collaborateurs que des usagers, et qu'on ait une infrastructure à disposition de notre population. Alors, on a des solutions provisoires, on est en train d'étudier maintenant vraiment tout ce qu'on peut mettre en œuvre. Toutefois, on met un bémol parce que, voilà, il y a beaucoup d'impératifs, il y a des impondérables qui nous sont, qu'on ne pourra pas éviter, c'est la livraison des matériaux. On est encore dans une incertitude, mais on travaille tous pour que ça fonctionne cet été, puis qu'on puisse offrir quelque chose à la population.
La deuxième phase des travaux devrait démarrer dès le mois de septembre. L'objectif est d'apporter une plus-value au site. L'aménagement d'une pataugeoire en tartan et d'un toboggan aquatique est notamment prévu. La Chambre d'économie publique du Jura bernois a présenté ce matin le premier baromètre industriel de cette année 2022. Si les perspectives sont réjouissantes pour les entreprises du secteur secondaire, elles vont toutefois devoir s'adapter encore aux chamboulements liés au Covid-19. Ce baromètre a d'ailleurs plus pris la forme d'une synthèse. Patrick Linder, directeur de la CEP, nous parle plus en détail de ce premier trimestre.
Il est caractérisé par une vigueur industrielle remarquable. Ça fait un moment que les entrées de commandes augmentaient. Les prévisions pour le début de l'année 2022 montrent que le volume d'affaires est encore appelé à augmenter. C'est donc une séquence qui est positive au plan de la conjoncture et au plan de l'activité, mais elle comporte un certain nombre d'autres problèmes et d'autres défis.
Quels sont les problèmes et les défis ?
Bien, c'est principalement la perturbation globale des chaînes d'approvisionnement qui engendre des complications pour la production et ça a un impact sur la profitabilité des activités. Pensons à la pénurie des matières, à la difficulté à se procurer certains nombres de composants, notamment électroniques. Et ça péjore la capacité des entreprises à dégager du profit. Les profits, c'est extrêmement important pour assurer la pérennité de l'activité.
Il y a beaucoup d'entreprises dans le Jura bernois qui sont victimes de cette pénurie de matériel, de composants.
Beaucoup sont touchés. Il faut rappeler que c'est une problématique globale. Ça part de la matière et toute la chaîne de valeur liée à la matière est impactée. Donc finalement, dès le moment où on est en relation avec un certain nombre d'entreprises, on est susceptible, on est exposé à des perturbations. Donc ça concerne beaucoup d'entreprises.
Patrick Linder, directeur de la CEP, au micro de Séverine Boé. Retrouvez plus d'informations sur le baromètre industriel de la Chambre d'économie publique du Jura bernois sur rgb.ch. Un oui et trois non, c'est le verdict qui pourrait sortir des urnes le 13 février si les électeurs suisses votent comme le prédisent les sondages. Ce devrait être oui à l'initiative Enfants sans tabac, même si le soutien s'érode. Non très net à l'autre initiative populaire qui veut interdire les expérimentations animales. Non aussi aux deux lois combattues par référendum, au soutien aux médias et à l'abolition du droit de timbre d'émission. C'est le soutien aux médias qui paraît être le plus indécis à 3 semaines de la votation. L'analyse à Berne de notre correspondant Serge Jubin.
Les résultats de 3 sondages ont été publiés, le 3e ce vendredi du groupe Tamedia. Un 4e sondage SSR arrivera encore ces prochains jours. Les regards se focalisent sur le soutien aux médias, objet le plus disputé. Les sondeurs ne sont pas d'accord sur l'issue du vote. Le sondage SSR GFS Berne donnait début janvier un match nul, 48% pour, 48% contre. Tamedia a toujours donné le non gagnant, 51% il y a 3 semaines, 57% de non aujourd'hui contre 39% de oui. Ce sera l'objet à suspense du 13 février, avec, à 3 semaines du scrutin, une tendance donc au rejet. Les choses paraissent plus claires pour les 3 autres objets. Le oui à l'initiative qui veut interdire toute publicité pour les produits du tabac visibles des enfants et des jeunes est solide, même s'il s'érode, comme c'est la coutume avec les initiatives. Le oui était à 73% pour le premier sondage SSR, 67% pour le premier Tamedia et 62% aujourd'hui pour la deuxième enquête. Les femmes et la Suisse romande sont les plus favorables à ce texte. Si le sort de l'initiative qui veut interdire l'expérimentation animale est jetée avec désormais plus de 70% de non, l'abolition du droit de timbre d'émission, combattue par un référendum de la gauche, est loin de la majorité. Le sondage SSR lui donne 42% de oui, Tamedia seulement 32%. Il y a encore beaucoup d'indécis concernant cet objet financier technique. Faute de compréhension claire de l'enjeu, ces indécis risquent de passer dans les rangs des adversaires. L'un des paramètres d'analyse de la votation du 13 février, ce sera la participation exceptionnellement élevée lors des rendez-vous de 2021. On pressent un recul le 13 février, faute d'objets très mobilisateurs. Cela pourrait avoir un impact que les sondages ne modélisent pas.
Un appareil Airbus A330 a subi aujourd'hui une panne de moteur présumée lors d'un vol intérieur en Chine. Selon la compagnie locale, l'avion a pu se poser sans encombre à son aéroport de destination. Le transporteur n'a pas précisé la gravité de l'incident qui a affecté le bi-réacteur du constructeur européen. Le rock américain perd une de ses figures marquantes. Meat Loaf est mort la nuit dernière à l'âge de 74 ans. Le chanteur atteint du Covid-19 avait été admis dans un hôpital de Nashville dans le courant de la semaine. Meat Loaf, de son vrai nom Marvin Lee Adey, était connu pour ses performances très théâtrales sur scène et dans ses clips, ainsi que pour l'album Bat Out of Hell. Le disque sorti en 1977 reste un des albums les plus vendus de tous les temps. François Comte retrace en musique les grandes étapes de la carrière de Meatloaf.
Meatloaf, en français pain de viande, affichait un certain embonpoint, d'où son surnom. Il démarre sa carrière dans les années 60 avec son premier groupe qui fait notamment les premières parties des Who, The Grateful Dead ou encore des Stooges. Meatloaf est ensuite engagé dans la comédie musicale Hair, mais c'est en 1975 qu'il donne un autre tour à sa carrière. Il intègre le spectacle The Rocky Horror Show qui débouche sur le film The Rocky Horror Picture Show. En 1977, c'est la gloire avec la sortie de l'album Bat Out of Hell qui deviendra un des 10 albums les plus vendus de l'histoire avec 43 millions d'exemplaires écoulés. La chanson la plus connue de Meatloaf ne figure toutefois pas sur cet album, mais sur le deuxième volume de Bat Out of Hell, sorti en 1993. Le titre I Do Anything for Love et son clip vidéo resteront gravés dans les mémoires. As long as the wheels are turning, as long as the bars are burning, as long as your thrills are coming through, you better believe it that I would do anything for love. And you know it's true and that's a fact. I would do anything for love. And there'll never be no turning back. Un troisième volume de Bat Out of Hell verra le jour en 2003, mais sans rencontrer le même succès. Meatloaf laisse derrière lui une œuvre grandiose pour ses admirateurs, grandiloquente pour ses détracteurs. En un mot, incomparable au sens premier du terme. No, I won't do anything for love, but I won't do that.
Vous écoutez RJB, il est midi passé de 28 minutes.
Sport. La première des deux descentes de ski alpin de Kitzbühel se déroule en ce moment. Le départ a été donné à 11h30 dans la station autrichienne. Pour le moment, c'est le Norvégien Alexander Rømodkilde qui est en tête devant le Français Johan Claret et l'Autrichien Matthias Mayer. Le Nidwaldien Marco Odermatt est quatrième, le Bernois Beat Feutz sixième et le Zurichois Nils Hintermann septième. Le HC Bienne veut surfer sur son bon début d'année pour mettre la pression sur le podium. Les Célandais reçoivent Zurich ce soir à 19h45 en National League de hockey sur glace. Actuellement quatrième avec une moyenne de 1,842 points par match, le HCB tente de chasser Rapperswil qui affiche environ 0,1 point de plus par match. Malgré une défaite au tir au but mardi soir à Zoug, les Biennois sont en grande forme en ce début d'année, Jérémy Pignard.
9 points en 4 matchs depuis la reprise après les fêtes. Il faut remonter 4 saisons en arrière, 2017-2018, pour retrouver trace d'un début d'année aussi canon. Bienne avait alors engrangé 10 points sur ses 4 premières rencontres avant d'être un magnifique demi-finaliste des play-offs. Voilà qui change des crises de janvier des dernières saisons. Celle de l'an dernier, par exemple, avec un 0 pointé sur les 4 premiers matchs. 4 points en 2020, 3 petites unités seulement en 2019. Si Bienne est en forme, c'est parce qu'il a retrouvé des couleurs en situation spéciale. 2 buts seulement encaissés en boxplay depuis le nouvel an, 5 buts marqués en powerplay. Mais ce qui saute aux yeux surtout, c'est ce caractère. Celui qui a permis aux Célandais de renverser Berne après avoir été mené 4 fois au score par 2 buts d'écart. Celui qui permet encore de renverser Lugano au Tessin en fin de match. Celui qui pousse Zoug en prolongation en comblant 2 buts de retard dans les 4 dernières minutes. Ce caractère qui peut-être permettra de renverser Zurich qui vient de remporter 8 de ses 9 dernières rencontres.
Des Zurichois qui sont juste derrière le HC Bienne au classement et qui passerait devant ce soir en cas de victoire. Bienne Zurich, c'est à suivre en direct dès 19h30 sur RJB avec Damien Piscopiello et le défenseur du HCB Kevin Fay. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite un très bel après-midi.